Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La ville des sept collines. Sans réfléchir, on répond évidemment Rome. Eh bien, la ville aux sept collines, cela peut être une autre ville. Tolède. Tolède, la ville aux ruelles étroites, si étroites que même l'été, il fait froid. Tolède, le siège de la cour des rois catholiques, la culture du sang, la porte du sang, une férocité. La ville des trois cultures, vraiment ? Un invité met un bémol à la formule de la ville des trois cultures. Je ne crois pas trop à ces trois cultures. Cela a été très difficile. La relation entre les morts, les catholiques, les chrétiens, même avant l'Inquisition. Le 5 avril 2009, Colette Fellouz proposait un rendez-vous à Tolède aux auditeurs de Carnet Nomade sur France Culture.
Bonjour à tous, Carnet Nomade, Colette Fellouz, rendez-vous à Tolède, à la réalisation Vincent Deck. La première image du matin de Tolède, Pierre Elimamou.
Oui, vous avez cette vue de Tolède que Greco a peint sous l'orage. Ce n'est pas la plus connue qu'avec le Tajo de l'autre côté, mais moi je la trouve très belle. Et là vous avez le quartier des couvents, et là vous avez cette faille qu'ils ont fait des jeunes architectes il y a une quinzaine d'années dans la muraille pour pouvoir monter, pour pouvoir rejoindre Tolède. Tolède est une ville très fermée, n'est-ce pas ? Il y a deux ou trois sorties, n'est-ce pas ? Donc, c'est difficile de rentrer dans la ville, c'était encore plus difficile d'en sortir. Et là, vous avez vous ne voyez pas encore le Taj qui est en bas. Le Taj, comme le Tajo, c'est-à-dire la coupure, la tranche qu'on arrache, n'est-ce pas ?
Là, c'est la signification du mot Taj.
Tajo, oui.
Le Taj, cette tranche qu'on arrache, ce fleuve qui prend sa source en Espagne, puis qui traverse le Portugal et qui va se jeter dans l'océan Atlantique à Lisbonne. Tout à coup, en le voyant d'ici, de Tolède, où l'on raconte que les forgerons ont utilisé son eau pour tremper l'acier des épées des chevaliers espagnols, où Héraclès lui-même avait dessiné de son épée son tracé autour de Tolède, oui, le Taj m'est apparu, soudain, comme un fleuve qui avait gardé en secret la mémoire de tous les exils et de toute l'histoire de Tolède. Pierre Elimamou, qui sera un de mes principaux guides dans ce voyage fugitif, est compositeur et musicien. Il vit à Tolède depuis plusieurs années et il aime recomposer la musique des villes, leur âme on pourrait dire, leur chuchotement intime. Il a longtemps accompagné à la guitare la grande chanteuse de mélodies séfarades, Sofia Eman Noël. Fernando Carbonel, qui est philosophe et grand érudit, sera aussi de notre voyage. Un voyage d'une seule journée, mais surtout un voyage dans le temps et dans les siècles, avec cette lumière si particulière de la ville qui sera en toile de fond notre fil conducteur. Comment ne pas être sensible à l'histoire de Tolède, Toledo, cette ville d'où quelque chose d'essentiel a été arraché il y a bien longtemps. Quelque chose d'essentiel qu'on nommait convivialité, entre chrétiens, juifs et musulmans. Elle est une des plus anciennes villes d'Europe et elle est classée aujourd'hui ville patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Elle a gardé sa forme orientale d'ailleurs dans ses vieux quartiers très serrés où les palais, les couvents, les mosquées, les synagogues et les forteresses se découvrent peu à peu. Rappelons également que dans le nom de Toledo, il y a tant de villes différentes. La ville du 6e siècle par exemple, quand elle était la capitale du royaume Visigoth, la ville du 8e siècle, où elle était entièrement musulmane et où les chrétiens, qu'on appelait alors mozarabes, vivaient sous la domination des musulmans. Puis, la ville de 1086, au moment de la reconquête chrétienne par le roi Alfonso VI de Castille, quand elle est devenue une ville chrétienne. Pendant tout le Moyen-Âge, et c'est de cette époque que vient la dénomination de la ville des trois cultures, vivaient ici des communautés juives, des communautés maures et des communautés chrétiennes. Au siècle d'or, on peut rappeler aussi que Tolède était le siège de la cour des rois catholiques et un grand centre d'artisanat du cuir, de la soie, de la damasquinerie, comme encore aujourd'hui. Mais de 1391, qui est la date des premières grandes violences contre les Juifs, jusqu'en 1492, qui a été l'année de l'expulsion des Juifs, de nombreux Juifs se sont convertis au catholicisme. De la même façon, un peu plus tard, en 1501, on appelait les Morisques les musulmans qui s'étaient eux aussi convertis au catholicisme. Rappeler ces dates, c'est surtout rappeler le point de départ du voyage des Juifs séfarades. À la fin du XVe siècle, en effet, les rois catholiques avaient créé le tribunal de l'Inquisition et avaient obligé les Juifs à choisir entre la conversion et l'exil. Ceux qui ont choisi l'exil sont allés vers le Portugal, vers la France, vers l'Italie, vers l'Afrique du Nord et vers l'Empire ottoman. À la fin du XVe siècle, à Tolède, on pense que les nouveaux chrétiens juifs convertis représentaient 30% de la population. Aujourd'hui encore, les Tolédans sont héritiers de cette histoire. Intérieur des remparts, Pierre-Élie Mamot, donc dans la vraie Tolède, la Tolède qui a toutes ses traces de l'histoire.
Oui, on est ici dans le quartier que les Tolédans appellent synagogas, ce sont les synagogues. Il y avait, je crois, on a compté jusqu'à 13 synagogues. Maintenant, il n'y a plus que deux. Donc des murs qui étaient avant ceux de la synagogue, qu'on voyait là, synagogue de Transito, et l'intérieur, n'est-ce pas? Ouais. Ça, c'était la synagogue de Yehuda Levi. Donc là, c'est un musée. Et il y a aussi une synagogue que Concha appelle la synagogue numéro 13, voilà, parce qu'elle ne peut pas l'appeler Santa, parce qu'ils l'ont rebaptisé Santa Maria la Blanca. Donc je crois que ça a été à un moment un culte chrétien.
Et vous habitez à côté, vous n'habitez pas dans le cœur de la ville.
Non, moi je suis venu pour des raisons personnelles, enfin pour voir mon fils qui habite à Tolède, qui habite encore. Et je peux pas habiter Tolède. J'habite dans un petit village à côté, à 10 km. Voilà, je trouve très angoissant. C'est une ville évidemment extrêmement belle, n'est-ce pas? Et au moment de venir habiter ici, j'ai dit je peux pas, voilà. Vers le 11e siècle, il y a eu des tueries tellement énormes à Tolède que vous voyez tous ces petits trucs comme ça, très jolis, avec le caniveau, le sang coulait à flot. Et voilà, donc c'est un pic, n'est-ce pas? C'est un promontoire et toute la ville est comme ça jusqu'au Tage. Et donc le sang coulait à flot et les gens se sont donc très tôt, n'est-ce pas? C'était à peu près avec les. Ça correspondait à peu près vers le 11e siècle. On ne sait pas pourquoi cette Tolède, qui est le représentant d'une ville juive pour l'imaginaire juif du monde, hein. C'est en fin de compte une chose terrible. Et puis après, il y a eu un renouveau, puisqu'il y avait les synagogues, tout ça. Donc les Juifs sont revenus. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait de culture, n'est-ce pas? Et puis après, ils ont dû repartir. Écoutez, oui, ils ont été chassés. Je voulais vous lire. C'est un poète. Un poète Julio Maruri, un poète contemporain qui a vécu beaucoup en France. Et tout d'un coup, j'ai trouvé ce poème, comme ça, qui dit, je vous le lis, je traduis un petit peu sauvage, comme ça, en français. « Pour Samuel, j'ai été acheter du pain et du miel et du vin pour le dîner du rabbin. À Tolède, toutes les ombres me faisaient peur. J'ai été acheter du pain et du vin pour le dîner du rabbin et du miel pour les plaies de Samuel. À Tolède, toutes les ombres me faisaient peur. » Et puis bon, après, il parle de l'Aredo et tout ça. Et voilà, donc il y a des gens qui ont cette... voilà, et d'autres, pas du tout, n'est-ce pas? Parce que...
Mais vous avez, l'intuition, vous travaillez aussi sur les villes, sur le son des villes, sur l'esprit des villes, on pourrait dire, en musicien, et vous avez aussi peut-être l'intuition justement du passé, de ce qui s'est passé dans les lieux.
Oui. C'est tous mes contemporains. Mais ça c'est un peu les études du Talmud un peu, hein. On étudie notre histoire pas comme des historiens, hein, mais comme si c'était on était dedans et si c'est une chose qui nous concerne.
Tolède était réputé justement pour ça, pour ses études, pour ce goût de l'étude.
Oui, puisqu'on apprend à lire pour la coupe des cheveux, on apprend à lire sur des lettres, n'est-ce pas, qu'on lèche, parce que doux est l'apprendre, l'apprentissage, l'apprendre est doux.
Oui.
Tandis que dans la tradition chrétienne espagnole, on dit con sangre la lettre entra. On fait rentrer la lettre avec du sang. Mais la culture du sang est très est très grande ici, voilà. Je suis. C'est pour ça que je suis un peu choqué. Je vous ai dit qu'une des deux portes pour sortir de Tolède, c'est la porte du sang. Et
elle donc, s'appelle c'est encore
la
comme
porte,
ça.
La porte al sangre. Donc il y a une férocité extrême que j'arrive pas à considérer qu'elle n'est que dans le passé. Par exemple, mon fils Isaac m'a dit « Tu vois cette porte, papa, près de la porte del Sol, elle est faite avec les pierres tombales des cimetières musulmans. » Mais moi, je reçois ça comme une violence extrême. Hein, j'ai des difficultés à assumer.
Qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être une chanson de aussi bien... juive, musulmane, espagnole, oui. Les pierres vous ont entendu et vous répondent, vous chantent.
C'est Fardi, mais j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à entendre rien.
Et aujourd'hui, justement, à Tolède, est-ce que les gens ont conscience de leur histoire? Est-ce qu'il y a ce travail de mémoire?
Je pense qu'il y a une espèce de silence. Donc ce ferment des trois cultures, où il est? Donc je parle même pas seulement en Espagne, ou en Espagne de toutes les trois cultures, n'est-ce pas? Mais je parle à Tolède, mais on pourrait parler en Espagne. Donc je crois que cet oubli est un faux oubli.
C'est le tableau du Greco qui est le maître d'œuvre du peintre. Et on l'appelle l'enterrement du comte d'Orgaz. Ce tableau il est aussi considéré la quatrième peinture la plus connue dans tout le monde. Cette petite chapelle est le lieu d'enterrement du comte d'Orgaz. Et le comte d'Orgaz, il était devenu maire de Tolède, un des plus célèbres à Tolède, parce qu'il avait donné assez d'argent pour la construction de plusieurs églises à Tolède. On dit que les paroissiens de cette église, ils se souviennent d'une légende qui raconte les miracles advenus pendant l'enterrement du comte d'Urgaz. On dit que
dans cette chapelle, devant le tableau du Gréco, de l'enterrement du comte d'Orgaz, j'ai pensé aussi à ce que disait Jean-Louis Schaeffer dans Sommeil du Gréco. Ce que l'art nous apprend, disait-il, ce n'est pas simplement le souci du regard ou la fidélité des apparences, mais c'est cette fragmentation essentielle du monde en nous-mêmes. Et quand il parle aussi de la vue et du plan de Tolède, du Gréco, il dit ce lent mouvement autour de la ville m'intrigue. Rien d'autre n'en est jamais montré qu'une citadelle vue de loin, comme un décor, une frise, quelque chose de trop petit pour y loger des hommes. La vue et plan de Tolède représente ce désert au-dessus duquel semble planer un essaim destructeur. L'intérieur de la ville n'est jamais montré, aucune rue, pas une façade de maison. La ville est miniaturisée, elle est partout soumise à un bombardement blanc, à une descente de gel, à un pilonnage de photons, et rayonne un froid incompréhensible. C'est le quartier de l'hôpital de Tavera, pris dans le Laocoon, par une espèce de nœud coulant, ou le quartier nord dans la petite vue de Tolède, sculpté en glaçons, en sucre candi, et posé sur une prairie hallucinée avec ses herbes géantes du premier plan. Tout un univers de fantômes dans la peinture du Gréco, de sueurs glacées, d'exil, dans ses citadelles d'opale laiteux, ses ponts de verre filés, ses remparts de verre ou de sucre articulés pour des escalades de talus, des escarpements de pierre, et là-bas le lointain Golgotha lunaire de cette vue de Tolède, avec ses trois arbres, sa forme de crâne, posée comme un jouet sur une prairie acidulée vert massepain.
C'est là donc la synagogue, la grande synagogue en fait de Tolède, une des...
Je pense que c'est peut-être celle qui était la plus grande, n'est-ce pas ? Parce qu'elle est immense, n'est-ce pas ?
C'est assez terrible en fait de se rendre compte que c'est devenu du folklore presque, cette trace comme ça des communautés juives d'ici, à Tolède.
C'est-à-dire comment faire, n'est-ce pas, puisque à partir du moment où la synagogue était utilisée comme église, elle est plus apte. Ils auraient pu tendre la main à la communauté juive et peut-être rendre les choses, hein, pour qu'ils en fassent un musée, mais non, voilà, c'est à l'État, n'est-ce pas.
Alors c'est une autre synagogue qui reste, Santa Maria la Blanca,
oui.
qui est le nom d'une église, oui. En fait.
Mais plusieurs synagogues ont été nommées avec une vierge. Je ne sais pas exactement pourquoi.
Après
une vierge chrétienne.
Et vous, Fernando, donc vous êtes né à Cordoue, vous êtes professeur de philosophie et vous vous intéressez beaucoup justement à toute cette histoire ancienne de Tolède.
Spécialement dans les dernières 7 ou 10 années, quand j'ai connu Pierre et la grande chanteuse Sophie Anoël, qui m'a enseigné beaucoup de choses, beaucoup de chansons. Et l'histoire vue à travers les Juifs est une forme de voir l'histoire de l'humanité dans une spéciale route inconnue pour moi. Après, et très, très, très intéressante. M'a fait découvrir beaucoup de choses, des perspectives très nouvelles pour moi. La Kabbale, par exemple, j'ai été très, très intéressé parce que là, je suis philosophe. Et la collaboration avec le monde musulman a été très riche. Je pense que le grand succès de l'islam au premier siècle et puis a été très battu avec l'aide, non, avec la collaboration des juifs, non, l'aide. Non,
oui, il y avait sans cesse en fait des liens entre eux, des traductions. Les juifs traduisaient aussi des textes.
Oui. Et la mystique, et tout. La poésie. La viande, la nourriture, la poésie, la musique.
La médecine, les mathématiques.
Ouais.
Je pense que peut-être c'était, ça a été entre, au moins, je ne crois pas trop les trois cultures, n'est-ce pas ? Je crois qu'avec le monde chrétien, je pense que ça a été très difficile, la relation, hein, même avant l'Inquisition. Bon, il y a eu des tueries de juifs qui ont été faites par certains musulmans, n'est-ce pas, en Espagne. D'autres non, mais je pense, on va parler des choses miennes, qui se sont bien passées. Je pense que ça va être un peu dans la Tunisie d'avant 67. Moi, j'ai été élevé dans cette fraternité. Non, plus que cette familiarité, je suis né en Tunisie, dans les années, je suis né en 46, donc dans les années 55, où je me souviens très bien. Donc il y avait ma famille spécialement, puisque nous avons été élevés par des berbères musulmans aussi, donc, mais même les autres amis, il y avait une familiarité extrême. C'est ma sœur de lait berbère, n'est-ce pas ? Donc, cette presque consanguinité.
Oui.
Donc, je peux penser que ça a été peut-être ici. Mais je crois que ça devait être différent, n'est-ce pas, quand même ? Il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire.
D'assez rare, oui.
Mais qui s'est terminé tout d'un coup comme ça, voilà, quand tout d'un coup, quand les pouvoirs ont décidé que c'était plus, et ben, nous avons dû partir en plusieurs vagues différentes, n'est-ce pas ? C'est ça, donc, cette espèce de fraternité, maintenant je vois que c'était une société pipée, quoi. Parce qu'à un moment, nous étions tunisiens, nous avons un passeport tunisien, donc pourquoi avoir dû partir ? Donc, ils ont supprimé la mémoire. Donc, à un moment, on vit comme ça, dépendant du caprice des princes.
On va rentrer peut-être ? C'est une architecture typiquement Tolède, Cordoue, ça rappelle aussi un peu.
Oui, je pense que la relation de les artisans juifs et musulmans, les morisques, est plus étroite qu'on pense. On dit que plusieurs des choses sont de morisques ici en Espagne, mais je pense que c'est une relation très étroite.
Travailler vraiment ensemble.
Vraiment, vraiment ensemble. Et je vois dans ces chapiteaux, je vois toute cette vitalité qui vient de Perse et qui, à travers la Méditerranée, la Tunisie encore, c'est comme une... peut-être un monde un peu de rêve aussi, un peu surréaliste, non, tous ces chapiteaux, non, sont belles.
Des voûtes, mais des colonnes, et tout orné
de lumière, avec le blanc des colonnes et tout ça.
C'est très émouvant en fait, parce qu'on voit la trace de à la fois de trois religions presque, hein, ici. Finalement, même si on pense que c'est une synagogue, mais il y a des traces de l'Orient. Et maintenant, cette croix.
Là, c'est la galerie, n'est-ce pas ?
Ah oui, c'est vrai, il y a la trace des colonnes.
Oui. Et donc, ça a été un moment muré quand ça a été fait en église.
Moi, j'aime beaucoup lire comme ça, à travers les pierres, toute l'histoire des siècles, non?
Oui.
C'est étonnant.
Ce qu'on a loupé à la synagogue, je vais le dire bien, de Samuel Levy, c'est que c'est écrit en hébreu,
oui.
Mais si vous le lisez, c'est en espagnol.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça qu'on appelle le ladino.
Le ladino, voilà.
Hein?
Oui. De l'espagnol avec des lettres hébraïques, oui. La sœur nous a salué. Vous êtes venu pour l'exposition?
Nous sommes là, nous sommes la Fraternité Marie-Étoile du Matin. Et nous sommes là parce que le cardinal de Tolède nous a demandé de nous occuper de l'animation spirituelle de la synagogue. Parce que notre vocation, c'est principalement d'offrir nos vies en réparation pour toutes les blessures en contre de l'unité. Et en particulier entre l'Église et Israël. Une des choses que nous avons fait dans cette exposition de peinture de frère Abraham, il est notre fondateur et il peint et il écrit aussi. Et c'est tout autour donc, de cette unité entre l'Église et Israël. Et donc ce lieu devient maintenant un lieu de rencontre, un lieu d'unité, un lieu de pardon, de réparation.
Monsieur Simon, elle est étonnante cette boutique. Qu'est-ce que c'est alors? Ah oui, il y a des bracelets, des statues.
Oui, c'est la sierre.
Qu'est-ce que c'est ça, monsieur? C'est Simon, c'est vous, Simon?
Oui, moi, c'est Simon.
Pour vous appeler Simon?
Oui.
D'accord.
Et la pièce, c'est la sierre patrampée, la chemou. Et nous l'attaquons à l'acide. Et sur le petit point qui décide de faire sur la sierre, avec le fil d'or pur, nous fait l'incrustation.
Une incrustation avec le fil?
Fil d'or pur de 24 carats.
D'or, ah bon?
Nous devons travailler avec le fil d'or pur parce que c'est très mou, très malléable. Si vous me permettez, donnez-moi l'initiale de votre nom pour faire.
C'est,
mais si. Je demande une initiale pour montrer que pas dessiné antérieurement.
Et donc, vous travaillez l'or comme ça? C'est une spécialité de Tolède?
Si, oui. Un immense affetto LED.
C'est une autre partie de Tolède, Pierre et Limamou, où nous sommes. Là, donc, on a traversé la place du marché ancien.
Oui, nous sommes venus de Socodover. Nous sommes passés par le centre de Tolède, par les petites rues étroites et fraîches qui nous protègent du soleil. Et nous sommes maintenant en face du Circolo d'Arte de Tolède. Et donc ça, c'est l'ancienne église San Vicente, dont les bases sont romaines, comme vous le voyez en bas, là. Et cette église de San Vicente, par ce petit passage que vous voyez, qui la sépare de ce bâtiment très étroit, il y avait un couloir transversal dans lequel les accusés ou les gens qu'on soupçonnait d'hérésie passaient dans ce bâtiment qui était le tribunal de l'Inquisition. Bon, on savait que quand ils rentraient là, personne ne sortait.
Donc là, à gauche, c'était là le tribunal de l'Inquisition.
Donc voilà, maintenant, ils ont mis une porte en fer. Donc voilà, ils passaient directement là. Mais il sortait de là, donc vraiment à l'abri des regards, et on ne voyait rien, on ne savait rien.
C'est effrayant. Frère Abraham, dans cette maison que vous habitez maintenant avec toute votre communauté, une vue extraordinaire sur Tolède.
Parce que nous sommes dans le cœur même de la vieille ville, à 50 mètres de la cathédrale. On voit l'Alcazar depuis la fenêtre de mon bureau. On voit les collines également de ce paysage tellement typique de la Nouvelle-Castille et la lumière exceptionnelle de Tolède.
C'est vrai qu'elle a quelque chose de...
Ah, moi, ça me rappelle beaucoup Jérusalem.
Oui.
C'est un peu le même climat, oui. Les murailles, et surtout, c'est un lieu de prière. Actuellement seulement, presque seulement catholique. puisque l'expulsion des Juifs a eu lieu il y a plus de 500 ans. Mais c'est une église très vivante. Quand on va à la cathédrale, on voit que c'est une cathédrale vivante, que ce ne sont pas seulement des pierres.
Et vous, vous avez eu une idée complètement inédite qui ne s'est pas faite depuis...
Depuis 2000 ans. J'étais athée complètement il y a plus de 30 ans.
Alors,
je suis juif.
Racontez-nous votre histoire.
Et Dieu s'est révélé. Je n'étais même pas en recherche consciente. J'étais persuadé que tout ce qui est religion était une drogue pour les peuples, aussi bien la religion de mon peuple que le catholicisme ou les autres religions.
Vous êtes né en France ?
Oui. Mes parents, tous les deux sont de Paris.
De Paris, d'accord.
Mais nous étions en fuite durant la guerre,
oui,
pour éviter de partir en camp de concentration. Et je suis né dans un tout petit village de France, à Perrac, où mes parents s'étaient réfugiés avec toute la famille. Et je voyais tellement de souffrances dans le monde, comme dans notre propre vie, etc., que je ne pouvais pas croire en l'existence de Dieu, parce que le concept de Dieu était correct. C'était Dieu tout pouvoir et tout amour, sinon il n'existe pas. Et je ne le voyais pas. Je croyais en l'amour absolu, je ne l'ai pas trouvé non plus. Et à 36 ans, j'avais ma profession qui me passionnait. J'étais antiquaire sur la côte normande. Et Dieu est venu.
Ouais. Donc là, vous avez une révélation.
Ça a été un choc total. Ouais. Donc ce n'est pas du tout mon projet. Dès le début, Dieu m'a dit quelle était ma vocation. Ce n'était pas du tout dans le faire, sinon dans l'être. Être lieu de passage, être passerelle entre l'Église et Israël. Puisque le Christ s'était révélé, la Vierge également, donc il restait plus que l'Église catholique, qui ne me plaisait pas du tout, parce que à cette époque, je la voyais comme l'image des bourreaux de mon peuple. Et peu à peu, bon, dans la prière, les choses se sont faites. Et j'étais marié, j'ai 3 enfants. Et par les circonstances de notre vie, nous sommes partis vivre à Jérusalem pour vivre notre foi. Donc je suis israélien, j'ai appris à parler hébreu. Et là, coup de tonnerre, ma femme a voulu la séparation. Il a fallu revenir en France sans rien. J'avais perdu mon pays, ma famille, mes enfants, tout. J'ai repris mon travail, ayant tout laissé pour leur entretien. Et ça a été très dur. Et là, Dieu ne m'a pas abandonné, mais il avait disparu apparemment. Et après, il m'a demandé vraiment de lui donner ma vie. Donc il y a eu une nullité de mariage, j'ai pu me consacrer. Et je vivais donc cette vocation, mais... Il y a 30 ans, il m'avait dit de former une fraternité. Et je ne voyais pas encore comment. Et puis, je suis entré dans une communauté en France. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait comme une secte. Alors, ça a été le moment de fonder la fraternité. Et j'avais eu une locution intérieure, c'est ainsi que ça s'appelle, de venir vivre à Tolède. Et ça a commencé comme ça.
Et pour vous, c'est une façon aussi peut-être de réparer justement les souffrances de l'histoire ou de...
C'est une utopie. C'est un projet, c'est pas du tout un idéal ni une utopie. Non. C'est un projet très concret. Dieu est très concret. Et en effet, il y a un espace de réparation. Mais il nous a demandé, c'est dans la règle de vie de notre communauté, d'offrir nos vies en réparation pour toutes les divisions. Et en particulier entre Israël et l'Église. Mais le nouveau cardinal, m'a appelé donc à être présent ici, m'a confié la responsabilité spirituelle de la synagogue. Donc nous avons fait des vigiles de prière en hébreu et en castillan. Nous avons chanté le Kol Nidré ici pour Yom Kippour. Et c'était bouleversant parce qu'il y avait des Israéliens qui étaient de passage par hasard. Et un groupe d'Israéliens, ils sont restés. Et ça s'est terminé en pleurant, en riant ensemble, en s'embrassant et en dansant les danses d'Israël. Et en ces quelques mois, il y a une expérience fantastique de compréhension où les gens sortent de l'exposition en pleurant, nous racontent leurs problèmes, sont très heureux de cela. Parce que c'est un lieu très touchant pour les gens d'origine séfarade. Parce que encore dans Santa Maria Blanca, il y a encore la nostalgie et la souffrance qui sont là, qui sont dans les murs, qui sont entre les colonnes, qui représentent le jardin d'Éden, ces colonnes, et qui est perdu par notre faute. Donc les gens ont un grand désir de paix, d'unité.
Et alors ce qui est très, très étonnant, en tout cas, c'est que Sœur Françoise nous a dit que vous faisiez le Shabbat, par exemple.
Alors nous célébrons le Shabbat, pas du tout pour faire du syncrétisme, nous sommes pleinement catholiques, mais comme signe d'unité.
Et quand on pense justement au moment où, dans l'histoire de Tolède, il y a eu les musulmans, les juifs, les chrétiens qui vivaient ensemble, est-ce que vous pensez que réellement c'était paisible ou c'est un mythe ?
Pas du tout. C'est un mythe commercial pour le tourisme, pour les trois cultures, etc. Il y a eu une coexistence. Pas une coexistence agréable, pas du tout. Ça dépendait de qui avait, comme on dit en Espagne, la sartène por el mango, c'est-à-dire la poêle par le manche. Et c'était, suivant les rois, s'ils avaient besoin des juifs ou non, ils les prenaient comme administrateurs, comme conseillers, comme médecins, etc., parce que c'était les meilleurs. Mais aussitôt qu'il y avait besoin d'argent, on les tuait. Et l'antisémitisme était très fort. Et malheureusement, l'Église n'a pas aidé. En ce sens, entre les conversions forcées. Mais n'oublions pas que l'Église est renée en Espagne à base de juifs convertis. Je n'aime pas ce mot parce que ça ne signifie rien, mais de juifs sincères qui avaient découvert le Christ et qui sont devenus les grands saints du XVIe siècle, comme Saint Jean de la Croix, comme Sainte Thérèse d'Avila, comme Saint Jean de Dieu, etc. Une quantité, et d'autres qui ne sont pas connus, mais qui étaient de familles juives et qui ont été obligés de se convertir, les parents peut-être, et eux peut-être par conviction, c'est possible aussi, mais ce sont des centaines de milliers de juifs qui sont passés à l'Église et qui ont fait revivre la foi vive.
Et vos parents ont été témoins de ça ?
Ils sont morts déjà depuis quelques années. Ça a été très dur. Le moment de mon baptême, ma mère m'a rejeté totalement, me disant « Mais tes enfants maintenant me donnent le dégoût, maintenant qu'ils sont catholiques. » Oui, elle a souffert de la guerre à un point terrible. Ils ont tout perdu pendant la guerre, absolument tout. Donc c'était très dur. Et l'image des bourreaux, de la France, de l'Allemagne, et de l'Église, pour ceux qui ne connaissent pas l'Église, était très marquée en eux. Donc tant que je parlais de ma rencontre avec Dieu, il n'y avait aucun problème. Et ils savaient que c'était à travers le christianisme. Mais quand ça a été le baptême, c'était horrible. Et après, ma mère acceptait que j'aille en habit chez elle. Mais ça a été long.
Frère Abraham, vous pourriez peut-être nous chanter quelque chose ?
Avec plaisir. Il s'agit d'une prière. Seigneur, fais reposer ta paix, ton amour sur nous et sur tout Israël. Sim shalom, tova o beracha, chen bachesed bechamim. Aleinu ve'alkol, aleinu ve'alkol, aleinu ve'alkol, Yisrael el amecha. Sim shalom, tova o beracha. Alors quand on chante ce genre de chant à la synagogue et qu'il y a des juifs, ils sont bouleversés. Ça a un sens extraordinaire. Pour les juifs, c'est vraiment la Jérusalem de Séfarade, Tolède. Et c'est vrai, il y avait 12 synagogues. 3500 juifs sur une population de peut-être 30 000 habitants. Ou au moins. Et il y a eu tellement de tueries. Tellement. Il y a la fameuse roche tarpéienne, parce qu'on a tiré depuis cette roche tout le quartier juif, au moment de la Semaine Sainte, il y a beaucoup de siècles. La différence entre la France et l'Espagne au niveau de l'antisémitisme, c'est que ici ça n'existe plus parce qu'il n'y a plus de juifs. Mais c'est larvé. Mais en même temps, comme me disait le premier prêtre que j'ai rencontré à Tolède il y a 16 ans, qui s'appelait Jesús Israël, c'est très symbolique, il me disait, ici, tout le monde a du sang juif dans les veines, et il n'y a plus un seul juif. Alors maintenant, il y a un juif au moins, mais qui est catholique.
C'est la vérité de Tolède.
Si, paradoxe. Oui.
Et sur cette place, Isaac, on a tout, c'est votre ville, Tolède, hein, vous allez au collège, ici aussi et...
Oui, oui, voilà, c'est où j'habite. C'est une ville très monumentale, très importante. Et voilà, c'est une des places les plus importantes de Tolède.
Elle est immense, cette cathédrale, alors.
C'est une des plus hautes, peut-être, de toute l'Espagne. Ils ont mis énormément de temps pour la construire, parce qu'à l'époque, avec les peu de machines qu'ils avaient, c'était très compliqué.
Un défi de construire. Et comment c'est d'être, alors, de grandir ici, d'être jeune ici ?
C'est un peu ennuyant.
En même temps, c'est une petite ville.
C'est ça, c'est une ville très touristique, mais pour habiter, c'est un peu plus compliqué, surtout pour les jeunes, quoi. Il n'y a pas vraiment grand-chose pour s'amuser, pour sortir, etc. Mm. Pour aller au cinéma, on doit faire 10 km en autobus. Et encore, c'est dans un centre commercial, donc c'est pas idéal, quoi.
Et vous êtes dans un lycée séfarade, c'est ça, dans le quartier, en fait, le lycée s'appelle... C'est un collège ?
Et il s'appelle Sefarad, même si la plupart des gens qui sont là, des étudiants, ne savent pas même ce que signifie Sefarad.
Ah oui, mais parce que c'est dans le quartier.
Voilà,
ancien.
C'est ça, c'est dans le quartier, ancien, dans les quartiers juifs.
Oui.
Il est à côté des synagogues, et voilà, ils ont mis ce nom. Il ne reste plus de juifs à Tolède, quoi. Vous devez savoir.
Il n'y a pas de musulmans non plus.
Musulmans, maintenant un petit peu avec l'immigration, des Marocains et Algériens aussi beaucoup, mais pas vraiment beaucoup.
J'aime bien les rues étroites aussi, un peu étouffantes en même temps, mais c'est pour protéger du soleil aussi.
Oui, du soleil et du chaud aussi, parce que en été, par exemple, dans ces petites ruelles, il fait même des fois froid, parce que il y en a des rues où vous étendez les bras et vous touchez les deux côtés.
Alors c'est sur cette petite place assez fermée d'ailleurs, comme au milieu de Tolède, que Fernando va nous présenter quelques chansons. Vous chantez alors, vous avez appris à chanter, Fernando, des chants séfarades.
Oui, parce que toute la variété des cultures et des populations ici à Tolède ont fait de Tolède une ville très secrète. On dit qu'elle a 7 collines comme Rome et qu'elles sont percées de corridors et châteaux souterrains. J'ai connu la grande chanteuse juive Sophia Noël et elle m'a enseigné plusieurs secrètes chansons juives. Une d'elles a tout cet esprit d'inquiétude spirituelle et physique, de crainte de Dieu et du diable, du juif toujours serein. Son texte dit « Je voulais m'en aller par ce petit chemin. Je veux supplier Dieu de ne pas rencontrer l'ennemi. Béni soyez-vous, parce que je m'en vais déjà. »
Quedavos en bono ora che dia che dia me bo.
La chanson séfardite a toute la mélancolie de l'exil de l'Espagne. Sans oublier ça, j'essaie de la chanter avec la joie, la gaieté qu'elle avait ici quand il appartenait à la vie quotidienne des juifs et des non-juifs. Parce que la chanson séfardite fait une unité, embrasse les trois religions parce qu'elle était très appréciée et écoutée et chantée aussi par chrétiens et musulmans. Je connais une très belle chanson de vie quotidienne. C'est une chanson de bain, une chanson de mer. On rêve ici de la mer. Je ne sais pas si la mer dans cette chanson et la mer des rêves, ou la mer qui sépare le juif de l'Espagne, de Sepharad. Le texte dit « Entre la mer et le fleuve, il y a un doux citronnier. Jette-toi dans la mer. Ma petite épouse est au bain. Elle est vêtue de rouge. Jette-toi dans la mer. Entre la mer et le sable, il y a un arbre en cannelle. Jette-toi dans la mer.
Entre la mer el río entre la mar y el río hay un árbol de pimbrillo. Échate a la mar.
En fait, alors, il y a cette boutique aussi d'antiquité qui a des choses merveilleuses hein, de partout. Et puis là, dans cette vitrine, vous avez des objets d'une collection, c'est ça?
C'est des objets des cultes juifs, oui. Alors, cette collection-là a été faite à Tolède en 1860 pour un monsieur de Tolède qui savait que son origine était juive. Ah. Alors, ça lui a provoqué l'envie de connaître le judaïsme. Alors, cet homme-là a décidé d'étudier, il l'a fait en Europe, car en Espagne, il n'existait ni des communautés, ni des juifs, depuis 1492. Mmh. Alors, il est forcé à étudier dans des pays où il y a des communautés juives. Alors, il prend un mois par an et il visite 6 différents pays. Alors, une fois qu'il finit ses études, il décide de se faire une collection privée. Et il leur donne un argentier de Tolède qui les lui fait. Alors la collection complète était composée de 382 pièces. Et maintenant, c'est tout ce qui nous reste.
Voilà. Donc il y a des mezouzas, il y a des timbales, des hanoukas.
Celle-là, c'est une hanoukia de voyage.
Ah, ça, c'est génial. Ah, non, on dirait un poudrier. Et puis quand on ouvre, il y a toutes c'est les petites bougies. Ah oui, c'est étonnant. Et parfois, on raconte aussi qu'il y a des endroits où il y a des traditions qui restent, mais on ne sait pas exactement que ça vient de là, dans les familles.
Il faut bien comprendre que tous les gens qui font ou qui faisaient une tradition qui ne savaient pas pourquoi, ils ignorent la raison. Mais c'est une tradition des familles, alors il la continue.
Ouais. Ouais.
Presque 800 000 juifs qui se convertent dans toute l'Espagne. Alors tous ces gens-là se marient avec des catholiques dans le reste de l'Espagne. Et naturellement, en 500 ans, ça donne un pourcentage très grand, très élevé des sangs juifs dans la douleur reste des Espagnols.
Mi madre, la mi madre, si bien me quieres, mi alma y mi bien. Alla mia esposica al bagno la lleve, mi alma e mi bien.
C'était notre chanson de bain et d'amour, mais je la vive aussi comme une chanson kabbalistique. Il dit, oh, la chanson est comme ça. Ma mère, si tu m'aimes, mon âme et mon bien, alors mon petite épouse, au bain, porte-la, mon âme et mon bien. Avec de l'eau de rose, lave-la. Mon âme et mon bien. Avec un pyjama de soie, enveloppe-la, mon âme et mon bien.
Et c'est vraiment, c'est très très beau. Parce qu'on sent aussi que vous avez envie de redonner comme ça de la vie aussi à Tolède par ses chants, par ses paroles, par cet art.
Oui, la première fois que j'ai senti ça fut dans le bain rituel, non, d'un village de Gérone. Et je ne puis pas me taire et j'ai chanté le commencement d'une chanson seulement. Mais ici, c'est la seconde fois que je suis en une place avec cet arbre et les pierres. J'ai essayé de chanter avec toutes les personnes qui, ici, il y a beaucoup d'années, chantaient cette chanson. J'essaie de surpasser cette mélancolie que l'expulsion a mis dans les chansons séfardites, retournant à l'arrêt original que les séfardites sont. Encore, peut-être comme une illusion, mais l'enfance, c'est une illusion aussi, non? Les enfants ne sont heureux tout le temps. Et récupérer cette joie de la vie quotidienne des séfardites.
Et vous avez aussi, j'ai appris que vous étiez descendant de Sainte-Thérèse d'Avila.
Oui, je ne suis pas juif, je suis chrétien, mais comme probablement tous les Espagnols, je descends des juifs. Chez moi, la ligne de parenté qui me connecte 19 générations après avec Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse, non, dont le grand-père était d'ici, de Tolède. Le pauvre fut jugé par l'Inquisition. Il fut condamné à faire quelques exercices de repentance publique avec tous les vendredis, avec ses fils de la main, ses fils et ses filles. Et quand il finit ses pratiques, il s'en alla à Avila, où Thérèse d'Ahumada est née.
Et si on allait voir la vue sur le Tage, où on a toute la ville hein, qui se décline au coucher du soleil.
Oui, j'adore la vue sur le Tage. je pense que j'ai chanté une chanson du bain, et je pense que les bains rituels étaient là, étaient dans les pentes de la ville sur le fleuve, non? Et oui, dans ces pentes sur les Tajos, je penserais sur les bains rituels et mon esposica, non? Mon petite épouse.
Mi madre, la
¿dónde?
Mi madre.
¿A la plaza directamente?
Si bien me quiere, mi alma y mi bien.
Voilà.
C'est la fin d'après-midi et c'est vraiment une vue de ce point. Donc de chez Fernando Locke, tout en haut de sa maison, qu'on voit toute la ville de Tolède.
Pues si veis el horizonte que se ve desde esta terraza, veis cómo los edificios principales, el poder civil,
ce qu'on peut voir d'ici dans l'horizon, c'est la mairie, le pouvoir civil, la cathédrale, le pouvoir religieux et l'alcázar, le château, le pouvoir militaire. Et puis les toutes petites maisons sous ces trois points de pouvoir.
Sans vouloir être le rabat-joie, parce que le spectacle est extraordinaire, mais c'est de ce point que venaient les inquisiteurs pour voir quelle cheminée ne fumait pas le samedi. Une fois qu'ils voyaient la cheminée qui ne fumait pas le samedi, ils savaient qu'il y avait les juifs convertis à la force et qui continuaient, par exemple, à respecter le Shabbat. Donc ils les voyaient. Et ces gens-là ont créé leur famille, enfin des voisins. Ils ne savaient jamais comment on découvrait qu'ils. Parce qu'on n'allait pas le.
Parce qu'ils voyaient tout.
Voilà.
On voit tout, effectivement, voilà, on voit toute la ville. Fernando?
Oui,
quelle émotion
vous avez après cette. Non, je vois plusieurs de couleurs, et spécialement dans cette heure, non, avec le soleil couché. Et je me rappelle de. Je vous ai parlé de massapan, non, comme on dit.
Le massapan, qui est une spécialité de
Tolède. C'est une secrète trésor caché avec l'ancienne vitalité de Tolède dedans. Mais il y a une autre place que je vous recommande d'aller demain, et que c'est le Greco. Et j'ai vu le Greco comme un vitrail. Et nous devons voir les peintures du Greco comme un vitrail et imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et derrière est cet Toledo que accueilli et que le Greco a choisi pour vivre, le Toledo. Et le Greco venait de Crète, il venait de Venise, non? Et Rome. Et il venait ici, il pourrait être à Madrid, à plusieurs places, et il a choisi Toledo. Et je pense que Toledo avait une variété de commerçants, et même de ce triste monde, mais très varié, des esclaves. Non? J'ai lu qu'il y avait beaucoup d'esclaves grecs et esclaves. Et je sens toute cette couleur humaine derrière de la peinture des tableaux de Greco comme un vitrail.
Il y a un secret de Tolède, en fait.
Oui, c'est ça que je dis, c'est le secrétisme et tous les sites et tout le monde. Je pense que quand toutes les religions ont été expulsées, non, exilées, l'essence de Tolède mourut et disparut. Mais nous pouvions l'imaginer dans les tableaux de Greco, dans le massapan et dans la cité. Et le secrétisme, parce qu'ici, tout le monde pense que tout est caché.
Ah oui, qu'il y a des signes oui, cachés dans la pierre.
Dans la pierre et dans le sol.
Dans les
sous-sols. Il y a beaucoup de choses cachées. Oui.
Alors il y a encore du travail à faire.
Oui, tout le travail.
C'est magnifique avec toute la nuit qui tombe maintenant, avec les petites lumières qui s'allument l'une après l'autre, et cette lumière dorée. Et c'est sur cette lumière de Tolède que se referme ce carnet nomade. Merci à Pierre Elimamou, à Fernando Carbonel, à frère Abraham de la Cruz et sœur Françoise de la fraternité Maria Estrella de la Magnana, à l'antiquaire Julio Linares Graciani, à Isaac Mamou et à Fernando Barreto, dit Locke. Merci également à Vincent Parello, son livre « Les judéo-convers » est paru aux éditions L'Armatan. Et je rappelle que « Le sommeil du Gréco » de Jean-Louis Schaeffer est paru aux éditions POL.
C'était Carnet Nomade, rendez-vous à Tolède par Colette Fellouz. Prise de son, Michel Meffre, réalisation Vincent Deck. Première diffusion sur France Culture le 5 avril 2009. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.